40 en temps universel.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, RFI vous donne la parole, c'est la libre antenne. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Vous terminez la semaine en revenant sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. C'est l'occasion, vous le savez, je le dis à chaque fois, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse internationale, de nous parler de l'actualité dans votre pays, de nous parler aussi des sujets dont on ne parle pas du tout sur notre antenne. 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Les réseaux sociaux, évidemment, la page Facebook de l'émission, page officielle, RFI Appel sur l'actualité. J'insiste, il y a d'autres pages Facebook Appel sur l'actualité, mais l'officielle, celle qui vous permet de vous exprimer sur l'antenne, RFI Appel sur l'actualité. Et n'oubliez pas, évidemment, de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Vous êtes encore nombreux à souhaiter réagir à l'épidémie de fièvre Ebola, l'épidémie qui a fait au moins 1900 morts en Afrique de l'Ouest. Ce sont les derniers chiffres de l'OMS. En ce moment, près de 200 experts sont réunis à Genève, en Suisse, sous l'égide de l'OMS pour examiner une liste de traitements potentiels contre ce virus, puisqu'il n'existe, vous le savez, aucun traitement et aucun vaccin. Fatou, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Conakry, la Guinée, premier pays à avoir signalé la fièvre Ebola. Vous êtes responsable d'une ONG, vous œuvrez dans le domaine de la santé, et avec vos moyens, Fatou, vous luttez contre ce virus et vous souhaitiez justement témoigner sur notre antenne.
Oui, Juan, en fait, depuis le mois d'avril, pratiquement mars, lorsque l'épidémie a été déclarée, notre coalition qui regroupe plusieurs ONG féminines avons fait beaucoup de sensibilisation, nous avons organisé même des téléthons, nous avons pu donner quelques moyens à travers le comité interministériel de crise des fonds pour remettre aux agents de la Croix-Rouge dans le cadre de la sensibilisation. Et entre-temps, lorsque l'alerte a été relâchée, l'épidémie est repartie de plus belle. Mmh. Et aujourd'hui, nous avons en Guinée beaucoup de nouveaux foyers qui, au début, n'étaient pas touchés.
Ouais. Et effectivement, exemple, vous avez raison de le dire, puisque le gouvernement, mercredi, a annoncé un nouveau foyer de fièvre Ebola dans la préfecture de Kérouane.
Oui, dans la préfecture de Kérouané et aussi à Forécaria. Bon, hier, par exemple, nous, notre ONG a passé toute la journée sur le long de la frontière avec la Sierra Leone pour un peu constater ce qui se passe. Nous avons eu l'occasion d'installer 50 kits de lavage de mains d'une capacité de 100 litres. Et puis, on a fait une distribution de chlore et de savon. Mmh. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, en fait, quand nous avons eu à parler avec les populations à la base, lorsqu'on dit qu'il faut isoler les malades, ça fait peur parce qu'à l'isolement, qui va leur donner à manger? Mmh. Lorsqu'un malade est reconnu donc porteur du virus Ebola et qu'il est isolé dans le centre, par exemple à l'intérieur, il n'y a pas une organisation spécifiquement chargée de donner de la nourriture à ces malades-là. Mmh. Or, c'est pas le personnel médical qui peut donner à manger à un malade hospitalisé ou à un malade isolé. Mmh. Ouais. Et à chaque fois qu'on dit isolement, ça devient donc une psychose, ce qui fait que les gens échappent au contrôle sanitaire des fois pour aller chercher des marabouts dans les hameaux, dans les petits villages, des charlatans, pour trouver le remède à leur mal.
Effectivement, on en parlait cette semaine d'ailleurs dans l'édition spéciale avec notamment l'un de nos invités, le docteur Épelgouin, qui est médecin anthropologue et qui revenait justement de Guinée, et qui disait que par exemple, on n'associait pas suffisamment les praticiens dans la lutte contre Ebola. Fatou, vous êtes à Conakry, ne raccrochez pas, on a l'un de vos compatriotes au téléphone. Il nous appelle de France, de Paris, je crois. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Guinéen de Paris.
Exactement.
Exactement. Et vous souhaitiez réagir, vous, à cette épidémie dans votre pays, la Guinée?
Oui, en fait, je souhaitais réagir à cette question, car je trouve qu'on pourrait améliorer les moyens de prévention, de communication et des traitements du virus Ebola en Guinée. Car quand on fait une comparaison avec les autres pays de la sous-région africaine, comme la Côte d'Ivoire, on voit par exemple que deux numéros verts ont été mis en place pour permettre aux gens d'alerter sûrement des centres de veille, parler du virus et dire que si jamais il y a un patient, il y a quelqu'un qui attend des symptômes, oui. Alors qu'en Guinée, on voit que cela n'est pas mis en place.
Alors attendez, j'ai demandé à Fatou. Fatou, vous êtes sur place, il n'existe aucun numéro vert à la disposition.
Il y a un numéro vert. Le numéro 115 est mis en place par le ministère de la Santé en collaboration avec les compagnies de téléphonie mobile. Vous oui. appelez le numéro, vous avez quelqu'un en ligne, vous discutez avec, et si vous avez un cas d'Ebola à signaler, oui. les équipes médicales viennent faire des prélèvements. On a même vu des cas
Fatou,
où c'était...
Fatou, on en profite. Ce numéro, vous le connaissez par cœur ?
Faire le prélèvement, ils ont confirmé que c'était pas, il s'agissait pas d'Ebola, c'était
Fatou,
une maladie comme
Fatou,
une autre.
Vous m'entendez bien ? Ce numéro, vous le connaissez, vous, par cœur ou pas ?
C'est le numéro 115.
Le 115, voilà, le 115. C'est important de le rappeler, même si j'imagine que les médias sur place le diffusent régulièrement. Mamadou, désolé de vous contredire, hein, il y a bel et bien un numéro sur place qui existe à la disposition du public, mais vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Oui, d'accord. Donc, autant pour moi. Je souhaiterais rajouter aussi qu'il faudrait essayer de prévenir les élèves, parce qu'on sait que c'est dans les écoles qu'il y a des contacts, beaucoup d'élèves se réuniront, et aussi nettoyer la ville, améliorer la salubrité de la ville, notamment dans les marchés, parce qu'on sait aussi que les produits et les aliments viennent souvent de l'intérieur du pays, et aussi isoler les villes là où il y a les cas du virus.
C'est-à-dire, quand vous dites isoler, ça signifie quoi ? Mettre en quarantaine des villes entières ?
Non, pas mettre en quarantaine des villes entières, mais au lieu de fermer les frontières nationales avec les autres, fermer la ville, que le virus soit traité, et aussi, j'ai vu la dernière fois...
Fermer la ville, c'est mettre une ville en quarantaine, excusez-moi, hein, Mamadou.
Oui. Quand je dis quarantaine, je veux pas dire quarantaine comme dans l'isolement.
Fermer la ville, c'est on ferme la ville, personne ne rentre et personne ne sort. Fatou,
oui.
Vous qui êtes sur place, sur le terrain, comment vous percevez et comment les populations perçoivent justement ces différents cas d'isolement, ces différents cas de mise en quarantaine ?
Juan, aujourd'hui, si on veut même isoler les villes qui se trouvent être l'épicentre de l'épidémie, ça va être un peu difficile parce qu'il faut qu'il y ait suffisant de provisions en denrées alimentaires, de provisions de médicaments, et un personnel médical suffisamment équipé pour pouvoir isoler les zones, procéder donc à la sélection des personnes suspectes et les mettre dans des centres de traitement.
Oui.
Avec la fermeture des frontières de la République de Guinée, comment voulez-vous que le PAM puisse approvisionner ces centres?
Oui.
C'est impossible. La fermeture des frontières est un tort terrible que la Guinée subit aujourd'hui.
De nombreuses ONG le rappellent, à commencer évidemment par Médecins Sans Frontières. Fatou, merci beaucoup, je vous interromps. C'est vrai qu'on pourrait encore discuter longtemps. Votre témoignage est passionnant. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci d'écouter RFI à Conakry sur les 89.9. Merci à Mamadou qui nous appelait de Paris. D'autres sujets retiennent également votre attention. Alors, c'est un peu plus futile, vous allez me dire, après Ebola, mais ça fait partie aussi de l'actualité. C'est la sortie en France du livre de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne du président François Hollande. L'ouvrage s'intitule « Merci pour ce moment ». Comment faut-il l'interpréter ? Je ne sais pas. En tout cas, ce livre, dans ce livre, elle raconte les 9 années passées aux côtés de François Hollande. Jules, vous êtes à Paris, bonjour.
Oui, bonjour.
On accueille également Régis, Libreville, au Gabon. Bonjour Régis.
Bonjour Anne.
Alors tous les deux, vous souhaitiez commenter la publication de cet ouvrage. Je ne l'ai pas lu. En revanche, évidemment, j'ai jeté un coup d'œil sur les nombreux extraits publiés dans quelques magazines et journaux français, L'Express, Paris Match et Le Monde. Il n'y a aucune grande révélation. Mais vous dites, Jules, que ce n'était pas le bon moment pour publier un tel ouvrage.
Oui, merci monsieur Juan Gomez, et bonjour à tout le monde, tous les auditeurs de RFI. Moi, ce qui me fait un peu mal dans cette histoire, c'est que je vis en France depuis longtemps, hein. Mais la situation de la France actuelle, hein, ça dépasse, on n'en a pas besoin de cette polémique-là maintenant. D'abord, le monsieur Hollande, il est au taux le plus bas, 13% des Français
d'opinion favorable.
D'accord, 13% d'opinion favorable. Le problème, c'est-à-dire ce livre-là, au moment, c'est pas le moment opportun. Et Madame Trierweiler, elle veut régler son compte avec Monsieur Hollande. Si elle veut régler son compte avec Monsieur Hollande, bon, le problème de la France maintenant, c'est pas Hollande, c'est toute la France. Elle s'adresse à toute la France avec ce livre. Alors, ce qui a été révélé dans ce livre, et il n'aime pas les pauvres, ça c'est son problème avec M. Hollande.
Ouais. Alors, justement, c'est vrai qu'elle dit, hein, dans son livre, elle écrit plutôt, je cite, « Il s'est présenté comme l'homme qui n'aime pas les riches. En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé... les sans-dents. » Et justement, cette phrase des sans-dents, Régis, à Libreville, elle vous a choqué.
Effectivement, elle m'a choqué. Et je me dis, du coup, qu'elle n'est pas indemne de tout cela aussi. Elle est complice de cela. Pourquoi ne l'a pas dénoncé au moment où M. Hollande le disait? Alors, pourquoi faut-il que c'est maintenant qu'elle vienne le publier? Parce qu'elle réclame aussi quelque chose derrière. Alors, parce que je suis en train de lire, justement... Elle a jeté un dévolu, vraiment, une jalousie énorme envers Ségolène Royal. Et elle publie des choses vraiment incroyables. Je me dis que vous, les Français, vous devriez fustiger ce comportement. Et personne ne doit acheter, à mon avis, ce livre.
Personne ne doit l'acheter. En tout cas, l'éditeur, lui, je pense qu'il y croit. Il me semble qu'il y a 200 000 exemplaires publiés. 200 000 exemplaires, croyez-moi, en cette période de l'année septembre où il y a plus de 700 livres qui sortent, c'est considérable. Donc voilà. Juste un mot, Régis. Donc pour vous, c'est scandaleux de publier un tel ouvrage?
Ben oui, c'est scandaleux. Parce que c'est la vie privée du président de la République et qui est d'abord citoyen. Est-ce qu'on a besoin de décaler la vie privée d'un citoyen comme ça, une personne avec qui on a partagé 9 ans? Et lorsqu'elle a commencé, elle, à sortir avec M. Hollande en 2005, alors Ségolène, s'est-elle fâchée? Elle a fait la même chose qu'elle? Non, moi je pense qu'elle devrait quand même, elle devrait essayer de grandir.
Bon, ben voilà qui est dit, ça le mérite d'être clair. Régis, Jules, un petit mot de conclusion rapidement? Jules à Paris?
Oui.
Un petit mot de conclusion peut-être? Ou pas
oui,
du tout?
Ce que je voudrais, est-ce que la fonction présidentielle, est complètement rabaissée? Je voudrais, surtout, Madame Trièvelet, elle doit savoir que, à l'heure actuelle, le problème des Français, c'est le chômage, c'est le retour de la croissance, c'est le logement. Et c'est la santé, c'est tout ce qui, tout, surtout nous qui sommes là, on attend que rien, que de trouver un petit boulot à côté. D'accord. Mais quand elle remonte avec ce bouquin-là, les gens qui vont acheter le bouquin, qui vont lire le bouquin, c'est son problème.
Bon,
le problème
Jules, du couple, on a compris, merci Jules, je vous interromps un peu brusquement, mais vous l'avez répété à plusieurs reprises, donc je pense qu'on a bien assimilé votre réflexion. Merci en tout cas de nous avoir appelés, et merci d'avoir discuté, débattu, même si vous étiez d'accord tous les deux, avec Régis de Libreville. Si nous parlions du Mali, puisque le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a fêté ou célébré hier, ces 12 premiers mois à la tête du pays, puisque le 4 septembre 2013, il prêtait serment et devenait donc officiellement le nouveau président malien. Bonjour Dakari.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous êtes à Bamako et votre bilan n'est pas du tout satisfaisant.
Effectivement, pas du tout satisfaisant, pour ne pas dire négatif.
Pourquoi?
Et là, j'aimerais d'abord préciser qu'il ne s'agit pas de faire... des critiques inutiles, mais des critiques constructives. Il est question de faire une évaluation et une appréciation.
Alors pourquoi? Dites-nous pourquoi ce n'est pas satisfaisant.
Pourquoi? Et nous rappelons bien que le président nous a beaucoup enthousiasmés avant son élection et même juste après son élection, avec des promesses telles que nul n'est et ne sera au-dessus de la loi, il en sera fini des procès monnayés, pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens. Et aujourd'hui, on constate que ces promesses sont loin de la réalité. Et on pourrait traduire aujourd'hui son fameux « pour l'honneur du Mali » par « pour le déshonneur du Mali ». Ce n'est pas un négationnisme, mais c'est la réalité. Donc, sur deux points, je pense que le bilan n'est pas du tout satisfaisant.
Alors, j'imagine que c'est la situation dans le nord du Mali où effectivement les Maliens sont impatients de cette reconquête du nord et de la réconciliation.
Oui, il y a en deuxième lieu la question du Nord, mais à mon avis, il y a aussi une autre priorité qui est la corruption à l'intérieur ici. Mmh. Donc, je vais commencer peut-être par ça.
Donc, allez-y, allez-y, Dakari, hein, surtout aller droit au but. Hein.
Le président a quand même montré son engouement ou sa détermination à lutter contre la corruption. Mmh. Malheureusement, il me semble que le Mali d'aujourd'hui, du temps de notre président Ibeka, est plus corrompu qu'il ne l'était.
Alors on va voir. Alors là, vous affirmez quelque chose. Vous êtes sur place, donc sûrement mieux placé que moi, évidemment, pour tenir de tels propos. Charlie, est à Paris, il est malien également. Charlie, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Vous partagez l'analyse et la critique formulée à l'instant par Dakari. Le Mali d'aujourd'hui est plus corrompu que le Mali d'hier?
Mais absolument pas, monsieur Juan Gomez. Vous savez, dans l'histoire d'un peuple, d'une nation, d'une grande nation comme le Mali, à un certain moment, il faut être objectif et se mettre au-delà de ses préférences politiques ou associatives. Le Mali, au 4 septembre 2013, date de la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta, était une nation sans État, sans administration, sans institution, ébranlée, affaiblie à tous les niveaux, avec des caisses vides. Mmh. Vous savez...
D'accord, mais excusez-moi, oui, si vous avez écouté ce matin l'antenne des RFI, l'un des leaders de l'opposition était interviewé sur notre antenne, Thiébilé Dramé, et il disait, il y a un an, il y avait un gouverneur à Kidal, le drapeau malien flottait à Kidal, et aujourd'hui, eh bien, l'État malien a complètement disparu de Kidal, et de la quasi-totalité du Nord, dit-il.
Non, mais écoutez, je vais vous dire qu'au début de son mandat, il a reçu quand même les groupes armés à Koulouba, organisé les états généraux de la décentralisation. Il a organisé aussi des assises au Nord, nomination d'un haut responsable au début du mois d'août 2014 pour gérer le problème du Nord. Alors, les mêmes Thiébilé Dramé peut les dire aujourd'hui, mais si j'ai bonne mémoire, dans un jeune Afrique, il semblait se rapprocher du président Ibrahim Boubacar Keïta pour lui dire d'être à sa de mettre ses compétences. Alors, puisque cela n'a pas été le cas, il peut effectivement dire ce qu'il avait.
D'accord.
Mais ce qui reste clair, c'est que au jour d'aujourd'hui, le Mali est sur le plan international, le Mali a retrouvé ses marques de position.
Alors,
le bilan 1 des...
Ne monopolisez pas l'antenne. Charlie, pensez à Dakari qui est à Bamako, qui vous écoute et qui vous a laissé parler. Dakari, le Mali a retrouvé sa place sur la scène internationale?
Je ne pense pas du tout. Et je voudrais dire à M. Charlie que quand on est dans un match de football, on ne joue pas pour jouer, mais on joue aussi pour gagner. Donc, le président a effectivement fait beaucoup de choses. Mais la réalité est que nous avons aujourd'hui perdu plus de notre territoire, entre guillemets, en tout cas qui est menacé, et ça ne va pas du tout. Et le Mali n'a jamais été aussi dénigré sur la scène internationale en ce qui concerne la corruption, nous avons vu. La presse internationale a commenté largement. Il ne s'agit pas juste d'une chasse à la sorcière de la presse internationale, même au niveau interne. La presse en parle. Nous avons des problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, le citoyen malien a de la peine à se procurer d'une carte d'identité. Il faut payer pour ça.
Bon.
On ne peut pas accepter ça.
D'accord.
Le président a une forte personnalité. Il faut qu'il l'utilise pour lutter contre ces choses.
Très bien. On aurait dû même organiser un débat de 20 minutes, je pense, sur les 12 premiers mois de l'action d'Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali. On aura peut-être l'occasion de le faire la semaine prochaine. Désolé vraiment pour ceux qui patientaient au standard. Il y avait Bernard qui est en Côte d'Ivoire, il est producteur de cacao et voulait lui réagir aux conditions de vie des producteurs de cacao, puisque en plus cette semaine le gouvernement a annoncé une campagne record en Côte d'Ivoire, plus d'1,5 million de tonnes récoltées. Il voulait malgré tout nous parler des mauvaises conditions. Fatou qui est à Malika au Sénégal, qui voulait nous parler du sort réservé aux habitants de cette commune, des commentaires également sur le procès Karim Ouad. Bref, on y reviendra évidemment la semaine prochaine. Lundi, sachez que nous parlerons de la réconciliation en Côte d'Ivoire, puisque c'est lundi que doivent débuter les premières audiences publiques afin de confronter les bourreaux et les victimes de la crise politico-militaire qui a débuté au début des années 90 et qui s'est terminée en 2011. Qu'attendez-vous de ces audiences? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle relever le défi de la réconciliation? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 33 9 693 693 70.
Appel sur l'actualité, vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.
Bonjour Claire Edon.
Bonjour Juan.